VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition du vendredi 27 mars 2015. Idrissa Sidou Dia et Morgan Guiriec au micro. À la une ce soir.
Lutte contre Boko Haram. L'armée nigériane affirme avoir repris Gwoza, où le groupe islamiste avait proclamé l'instauration de son califat.
Présidentielle nigériane, c'est demain le scrutin.
La commission électorale rassure tout le monde que le pays est prêt pour tenir des élections. À 8h samedi matin, ils vont être prêts pour ouvrir.
Épidémie d'Ebola, quelques 6 millions de Sierra Leonais vont devoir rester chez eux jusqu'à dimanche.
Au Yémen, les avions de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont, pour la seconde journée consécutive, bombardé des positions des Houthis.
Crash de la German Wings dans les Alpes françaises. Le copilote, soupçonné d'avoir délibérément provoqué l'accident, a caché des preuves de sa maladie à son employeur.
Dans moins de 10 minutes, la Minute Éco avec Jean-Roger Bion et les sports avec Nicolas Pineau. Mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir repris ce vendredi Gwoza dans le nord-est du pays. Souvenez-vous, c'est dans cette ville que le groupe islamiste Boko Haram avait proclamé l'instauration de son califat l'année dernière. Les précisions de Jacques Aristide.
Une annonce qui intervient à la veille des élections présidentielles et législatives au Nigeria et qui revêt d'autant plus d'importance, comme l'a fait ressortir le ministère de la Défense à Abuja sur son compte Twitter. Il écrit
« L'armée a repris Gwoza ce vendredi matin, détruisant le quartier général du soi-disant califat des terroristes. Plusieurs terroristes sont morts et nombre d'entre eux capturés. Nettoyage complet de Gwoza et de sa banlieue en cours. »
Pour sa part, le porte-parole de l'armée nigériane, Chris Olukolade, a révélé que des cadavres ont été découverts dans un puits. Un homme, enrôlé de force dans les rangs de Boko Haram, a déclaré que le chef du groupe, Aboubakar Shekau, a lui-même ordonné l'exécution des femmes de Gwoza et un fermier a corroboré cette version des faits, comme le rapporte l'AFP. Après avoir été chassé d'un certain nombre de localités ces dernières semaines par l'armée nigériane et ses alliés des pays voisins, Boko Haram se serait mis en ordre de bataille pour défendre son fief.
C'est dans ce contexte de violence que le président tchadien se plaint du peu de coopération d'Abuja face aux djihadistes. Idriss Déby, dans une interview à l'hebdomadaire français Le Point, affirme que l'armée tchadienne déployée au Nigeria pour lutter contre Boko Haram mène seule ses combats à l'intérieur du pays. Tout le monde se demande pourquoi l'armée nigériane, qui était une très grande armée qui a résolu des crises en Afrique, n'est-elle pas en mesure de faire face à des gamins non formés armés de Kalachnikov, a ajouté M. Déby.
Sachez aussi qu'au Niger, une bombe tirée du Nigeria est tombée hier matin au Niger voisin, à environ 20 km au sud-est de Diffa. D'après notre envoyé spécial Idriss Fall, l'explosion s'est produite au cours d'une distribution de nourriture par Care International. Une femme a été tuée. Boko Haram, actif dans la région, est évidemment pointé du doigt.
République centrafricaine, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés condamne fermement l'enlèvement de réfugiés congolais par les rebelles de la LRA. Des réfugiés congolais ont été enlevés par la LRA près de la frontière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Les faits se sont déroulés le 21 mars, mais la LRA retient toujours 3 personnes, 2 femmes et 11 hommes ont pu regagner le camp de réfugiés de Zemio pour donner l'alerte. Céline Schmid est porte-parole du HCR à Kinshasa.
Il s'agissait de réfugiés congolais qui étaient réfugiés en Centrafrique et qui étaient revenus en RDC pour voir leur champ. Ils ont été enlevés du côté de la RDC. 13 d'entre eux, 2 femmes et 11 hommes, ont été relâchés 2 jours après et sont retournés à pied jusqu'au camp de Zemio où ils vivaient. 2 victimes sont encore retenues par la LRA. Mais nous savons également qu'il y a une augmentation de l'activisme de la LRA dans la zone. Il y a eu 25 enlèvements dans cette zone-là au mois de février dernier. Et depuis 2014, nous avons constaté une augmentation des attaques et des kidnappings de la LRA dans la zone. Donc il y a eu une nette augmentation en 2014 des enlèvements par rapport à la situation de 2013.
C'était Céline Schmid, porte-parole du HCR à Kinshasa.
Une nouvelle attaque imputée aux Shabab somaliens ce vendredi dans Mogadiscio. Un grand hôtel de la capitale a été visé. Il y aurait plusieurs blessés, nous dit Nicolas Pinault.
Scénario habituel, c'est un établissement fréquenté par les parlementaires somaliens qui a été visé ce vendredi près du carrefour très fréquenté du kilomètre 4. Une voiture piégée a explosé aux abords de l'hôtel Maka al-Mukarama en plein centre de Mogadiscio. Puis des assaillants ont ouvert le feu et réussi à pénétrer dans l'hôtel, comme l'a expliqué à VOA Afrique Gourey Haji Hassan, l'un des propriétaires de l'hôtel. Il explique qu'il y a sans doute des victimes puisque les djihadistes se sont réfugiés dans l'hôtel. Cet établissement, situé au cœur de la capitale somalienne, a déjà été la cible de 3 attaques similaires dans le passé. Les propriétaires ont toujours refusé d'ériger des barricades pour empêcher tout véhicule piégé d'approcher le bâtiment. Aucune revendication pour le moment, mais les Shababs sont soupçonnés d'être à l'origine de cette attaque. Défaits militairement par la force de l'Union africaine depuis août 2011, les djihadistes multiplient les actions de guérilla, notamment à Mogadiscio, où ils visent régulièrement des sites officiels.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Maroc, 3 ressortissants français ont été condamnés à 4 mois de prison ferme dans des affaires de terrorisme, avant d'être expulsés vendredi matin du pays. Jean-Roger Bion.
Le principal accusé a été condamné par un tribunal de Salé près de Rabat à 2 ans de prison, dont 4 mois ferme pour constitution de bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif. 2 autres ressortissants français ont été reconnus coupables de non-dénonciation d'un crime terroriste et coupant d'une année de prison, dont 4 mois ferme. Poursuivi dans la même affaire, un 4e français a lui été acquitté de l'ensemble des charges. Leurs identités ne sont pas dévoilées. Les peines prononcées ont toutes été purgées dans le cadre de la détention préventive et la Cour a décidé de l'éloignement de l'ensemble des accusés du territoire national, a indiqué l'agence marocaine de presse MAP citée par l'AFP. Les 4 personnes ont ainsi été expulsées ce matin du territoire marocain à destination de la France. Le Maroc et la France comptent chacun plus d'un millier de ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes comme le groupe État islamique. Rabat, qui ne cache pas son inquiétude face à ce phénomène, a complété l'an dernier sa législation pour renforcer sa lutte anti-djihadiste.
Au Yémen, les avions de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont, pour la 2e journée consécutive, bombardé des positions des Houthis. Ces opérations entrent dans le cadre d'un effort régional pour chasser ces rebelles chiites qui, ces derniers temps, se sont emparés d'une bonne partie du pays. Les précisions de Michel Joseph.
Les frappes aériennes ont visé des bases militaires et autres positions tenues par les rebelles chiites à Sana'a et autour de la capitale yéménite, selon des officiels et témoins. Quant aux autorités militaires, elles disent que les raids ciblaient la province septentrionale de Saada, fief des rebelles Houthis. La première phase de la campagne aérienne a été qualifiée de succès par les responsables militaires saoudiens, mais une offensive terrestre pourrait être également nécessaire, a reconnu le ministère saoudien de la Défense. La coalition, qui compte 10 de pays, dont les 5 monarchies du Golfe Persique, tente de défaire les Houthis qui sont appuyés par l'Iran pour remettre au pouvoir le président internationalement reconnu du Yémen. Téhéran, qui dément financer et entraîner les Houthis, a averti que l'offensive actuelle pourrait envenimer la situation au Yémen et a préconisé le dialogue et la réconciliation nationale dans ce pays. Dans sa première réaction au raid, le chef des rebelles Abdelmalek al-Houthi a condamné une invasion et averti que les Yéménites ne vont pas rester sans réagir.
Le copilote soupçonné d'avoir délibérément provoqué le crash dans les Alpes françaises et la mort des 150 personnes à bord de l'appareil de Germanwings aurait caché des preuves de sa maladie à son employeur, annoncent les procureurs allemands. Des formulaires d'arrêt maladie détaillés, déchirés et qui concernaient aussi le jour des faits ont été retrouvés chez Andreas Lubitz, mais la nature de sa maladie n'a pas été précisée. Cependant, et selon la presse, il souffrait de dépression. Désormais, en tout cas, les compagnies aériennes allemandes vont adopter la règle des 2 personnes en permanence dans le cockpit de leur avion Pour rappel, le copilote avait empêché le pilote de regagner le cockpit après que ce dernier s'est absenté quelques minutes.
Les négociateurs américains et iraniens ont entamé un dernier round de pourparlers sur le nucléaire iranien, alors qu'approche la date butoir du 31 mars pour la conclusion d'un accord cadre. Le secrétaire d'État John Kerry et son homologue Javad Zarif se sont rencontrés aujourd'hui à Lausanne, en Suisse. Hier, à l'issue de leur entretien, ils se sont dit optimistes. Zarif a condamné les raids aériens saoudiens au Yémen, mais il a précisé qu'ils n'affecteront pas les négociations qui, a-t-il rappelé, sont axées sur le nucléaire.
La France va relancer les efforts pour faire voter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution fixant les grandes lignes d'un règlement au Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens. Paris va entamer des discussions à ce sujet avec ses partenaires dans les prochains jours, a précisé le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il a ajouté que la France avait proposé en décembre un texte rappelant les paramètres internationaux d'un possible règlement israélo-palestinien, notamment la solution à deux États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien.
Et le président syrien Bachar al-Assad se dit ouvert au dialogue avec les États-Unis, mais un dialogue fondé sur le respect mutuel. Dans une interview à la chaîne de télévision américaine CBS, M. Assad a répondu à des récentes déclarations du secrétaire d'État John Kerry, selon lesquelles Washington devra éventuellement parler au président syrien pour aider à trouver une solution à la guerre civile en Syrie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce soir, Jean-Roger Bion.
Fin des discussions annuelles entre le Fonds monétaire international et l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur les politiques communes des États membres de l'UMOA. Dans un communiqué, le conseil d'administration du FMI s'est dit satisfait de la performance économique de la zone UMOA. Il précise que la croissance dans la zone a atteint 6,1% en 2014 grâce à la poursuite d'une croissance vigoureuse en Côte d'Ivoire et à une campagne agricole favorable dans de nombreux pays. L'augmentation des investissements publics d'infrastructures a également stimulé l'activité économique, poursuit le FMI. Et puis, les effets de l'épidémie d'Ebola sur la croissance, bien qu'ils aient été prononcés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, ont été faibles à l'échelle de l'UMOA. Grâce aux investissements des secteurs publics et privés, à l'affaiblissement de l'euro, auquel le franc CFA est rattaché, et grâce à la baisse des prix du pétrole. La croissance économique, par ailleurs, a ralenti aux États-Unis au quatrième trimestre 2014. La vigueur des dépenses des ménages n'est pas parvenue à compenser la moindre reconstitution des stocks et le ralentissement des investissements. Un ralentissement prolongé de la croissance conjugué à une faible inflation pourrait inciter la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, à retarder le relèvement de ses taux d'intérêt directeurs.
Toutes mes excuses à Camille Grosdidier. Bien entendu, vous avez reconnu notre distinguée économiste, Camille Grosdidier, que vous entendez tous les mardis sur nos antennes.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
En football, défaite en amicale de la Tunisie, 2-0 au Japon.
Les Nippons qui sont désormais entraînés par Vahid Halilhodžić, leur nouveau sélectionneur, entré en fonction à la mi-mars. Les Samouraïs bleus ouvrent le score par Okazaki de la tête à la 78e minute. Puis quelques minutes plus tard, Honda double la mise. Les hommes de George Likens jouent mardi un second match amical face à la Chine pour se reprendre.
On joue ce soir en Europe pour les éliminatoires de l'Euro 2016.
Dans le groupe C, l'Espagne battue pour la première fois depuis 8 ans en qualification. C'était en octobre dernier en Slovaquie. Depuis, la Roja s'est reprise mais reste à égalité avec l'Ukraine. L'occasion est belle ce vendredi de distancer cet adversaire slovaque qui ne devrait pas faire de détails face au Luxembourg. Autre rencontre, Macédoine-Bélarus. Dans le groupe E, l'Angleterre est bien partie pour poursuivre son cavalier seul en tête du groupe en recevant la Lituanie. Autre match, Suisse-Estonie et Slovénie-Saint-Marin. Enfin, le groupe G reste très serré. L'Autriche, leader avec 4 points de plus, se rend au Liechtenstein. Emmenée par un certain Zlatan Ibrahimovic, la Suède n'a pas le droit à l'erreur. Et puis la Russie sera en déplacement au Monténégro.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgane Guériec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Le Nigeria est à la veille des élections. C'est l'occasion de joindre notre envoyé spécial Anlou qui se trouve à Abuja pour couvrir les présidentielles nigérianes. Nous lui avons demandé si tout était fin prêt pour le bon déroulement des élections.
La commission électorale, ils rassurent tout le monde que le pays est prêt, qu'eux, ils sont prêts pour tenir des élections. Eux, ils m'ont dit cette semaine qu'ils étaient en fait, à partir de mercredi, ils étaient en train de prépositionner tous les matériels de vote, les bulletins, tous les matériels sensibles, non sensibles, etc. Tout se passe bien et ça va à 8h samedi matin, ils vont être prêts pour ouvrir. Et aussi, je peux rajouter aussi que même la police, c'est l'agence de sécurité principale qui va sécuriser les élections et eux aussi, ils ont rassuré la nation plusieurs fois qu'il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de séquestration.
Qu'en est-il de la situation dans le nord-est du pays, là où Boko Haram sévit?
Dans le nord-est, c'est calme pour l'instant. On s'inquiète toujours pour des attaques, des trucs qui peuvent se faire le jour de l'élection, mais pour l'instant, c'est calme et les gens, ils sont prêts pour voter.
Est-ce qu'on a une idée de quand on va pouvoir avoir les premiers résultats de cette élection?
Oui, mais en fait, au Nigeria, la commission électorale ne sort pas des résultats partiels. En fait, eux, ils disent qu'ils vont sortir des résultats dans les premières 48 heures. Ils vont déclarer les résultats en total. Il faut regarder tous les résultats. Au Nigeria, pour gagner l'élection présidentielle, il faut avoir non seulement une majorité de votes, mais aussi il faut avoir 25% des voix dans deux tiers des États dans le pays, 24 États parmi des 36 dans le pays. Alors ça veut dire que vraiment, ce sont tous les résultats qui vont compter en fait. C'est une situation très tendue ici. J'ai l'impression aussi que le plus que ça traîne, le plus que la tension va monter.
Anne-Louk, envoyée spéciale de La Voix de l'Amérique, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Quelques 6 millions de Sierra Leonais, à l'exception des agents de santé, vont devoir rester chez eux à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Mesure radicale décrétée pour la deuxième fois en 6 mois, afin de maîtriser une recrudescence de cas d'Ebola dans certaines régions du pays. Salwa Jafari.
Village Rosenda, dans le nord de la Sierra Leone. Les enfants jouent dans la rue, les femmes font leur ménage, si ce n'est pour les rubans rouges et blancs qui entourent les maisons. On aurait dit que c'est une journée comme les autres. La population de Rosenda a été placée en quarantaine. Un jeune homme infecté est venu rendre visite à sa mère au village. Il est mort quelques jours plus tard, laissant derrière lui 50 nouveaux cas. Anthony Sessei, coordinateur pour la santé de la coalition, raconte ce qui s'est passé.
Les villageois qui se sont occupés de lui ont lavé son corps, ils ont tous été infectés. Même l'herboriste traitait le malade. Lui aussi a succombé.
C'est pour éviter des erreurs comme celle-ci que le gouvernement a décrété une nouvelle quarantaine de 3 jours dans tout le pays. Un allègement des restrictions est cependant prévu pour la prière du vendredi et le dimanche qui coïncide avec une fête chrétienne. Près de 26 000 volontaires sont mobilisés pour faire du porte-à-porte, comme ici à Rosenda. La Sierra Leone, qui compte le plus grand nombre de cas, avait imposé un confinement à toute sa population l'année dernière. Le pays espère cette fois-ci en finir une fois pour toutes avec l'épidémie, surtout à la veille de la rentrée scolaire, prévue dans 3 semaines.
En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont décidé de réduire leurs effectifs militaires de 10%, soit 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. Le mandat de la mission onusienne est toutefois renouvelé pour un an. La résolution adoptée souligne la nécessité de rendre la MONUSCO plus souple, plus mobile et plus efficace sur le terrain. Selon des diplomates du Conseil, Kinshasa réclamait le retrait immédiat de 6 000 casques bleus. Pour rappel, la force est présente depuis 15 ans en RDC et essentiellement déployée dans l'Est, en proie à des conflits depuis plus de 20 ans. C'est une des missions les plus importantes et les plus chères déployées par l'ONU. Correspondance d'Eric Ambago de Congo FM, notre station partenaire en RDC.
Ce sont 2000 casques bleus qui sont appelés à se retirer de la RDC au terme de la résolution 2211 du Conseil de sécurité adoptée jeudi au siège des Nations Unies. Le gouvernement congolais avait souhaité un retrait plus important. On envisageait le retrait d'au moins 5000 hommes. Kinshasa reconnaît tout de même que c'est un début. François Mwamba est coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Il est dit dans cette résolution qu'il y a une réduction de 2000 avec ouverture immédiatement des discussions entre MONUSCO et la République démocratique du Congo afin d'avoir une discussion structurée. Je note qu'une telle discussion entre MONUSCO et le gouvernement a déjà démarré sous notre ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda à Kinshasa.
À Kinshasa, la population commente diversement la prolongation du mandat de la mission onusienne.
On a encore besoin de la MONUSCO. Le retrait doit être vraiment progressif tout en s'assurant qu'ils remplissent bien leur rôle.
Pour moi, bon, je ne veux pas qu'ils puissent encore être là. Ils voient toujours leur intérêt.
Dans le pays, il y a encore un problème de sécurité qui se pose. Surtout lors des élections, la MONUSCO a beaucoup de rôle à jouer.
La neutralisation des poches résiduelles des groupes armées et rébellions étrangères et l'organisation des élections générales en RDC devrait se faire avec l'appui logistique de la mission onusienne pour la stabilisation en RDC. De Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Amnesty International estime que le gouvernement gambien fait fi des mises en garde des Nations Unies contre la détérioration de la situation des droits humains en Gambie. Début mars, le Conseil des Nations Unies sur les droits humains s'est penché sur un compte-rendu de ses rapporteurs spéciaux sur l'état des droits de l'homme en Gambie. Le document faisait état de cas de torture et d'exécution extrajudiciaire dans le pays. L'ONU a émis 171 recommandations à la Gambie, mais le gouvernement du président Yahya Jammeh n'en a accepté que 93, dénonce Amnesty. Notamment, la Gambie n'a pas accepté les recommandations concernant la ratification de la Convention de l'ONU contre la torture ou portant sur l'abolition de la peine de mort. On écoute François Patuel, chargé de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.
Quand on lit la communication qui a été envoyée par le gouvernement gambien au Conseil des droits de l'homme, on a l'impression que tout se passe bien sur place. Amnesty International reçoit de manière extrêmement fréquente des journalistes, des défenseurs qui quittent la Gambie de manière temporaire ou de manière permanente parce qu'ils ont peur de rester sur place. C'est aussi quelque chose qui s'applique aux militants politiques d'ailleurs. Les autorités gambiennes utilisent en fait un cadre juridique extrêmement restrictif qui par exemple condamne la publication d'écrits soi-disant séditieux ou la publication d'informations erronées sans définir ce que information erronée veut dire. Et non seulement ce sont des délits qui existent dans le droit, mais en plus ce sont des délits qui sont criminalisés. Un exemple, Amadou Sané, qui est un leader de l'opposition gambienne, a été arrêté en septembre 2013 pour avoir écrit une lettre de soutien à un autre membre du parti qui voulait demander l'asile hors de la Gambie. Il a été arrêté par l'Agence nationale des renseignements, maintenu pendant un mois en détention incommunicado. Il a été torturé. L'autre exemple, c'est la situation des personnes qui sont considérées homosexuelles en Gambie. La Gambie dit « oui, il n'y a personne qui a été torturé sur la base de son orientation sexuelle ». Et c'est extrêmement dommage que la Gambie n'ait pas relevé le défi que lui a envoyé la communauté internationale pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays.
François Patuel, chargé des campagnes d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.
Conséquence directe du crash mardi dernier de l'Airbus A320 de la Germanwings, plusieurs compagnies aériennes en Europe vont modifier leurs règles de sécurité. Norwegian Air, EasyJet ou encore Air Berlin ont décidé d'imposer la présence permanente de deux personnes dans les cabines de pilotage des avions. Une réunion a lieu ce vendredi même en Allemagne autour de cette question. Un changement qui ne convainc pas tout le monde toutefois. Comme nous allons l'entendre dans l'interview que nous propose Jacques Aristide, il s'est entretenu avec l'expert en sûreté aérienne, Amine Messifi.
Écoutez, c'est une affaire extrêmement choquante, pas quelque chose d'habituel en fait, surtout dans ces conditions-là. Ce n'est pas la première fois qu'un pilote cause le crash délibéré d'un avion. On en a malheureusement de temps en temps des personnes qui sont dans des états psychologiques pas très stables, qui arrivent dans des cockpits, qui passent à travers les filtres, et on dirait que celui-là, cette personne en fait malheureusement partie. Mais je suis quand même étonné que son psychiatre, sachant que c'est un pilote de ligne, n'a pas tiré la sonnette d'alarme ou ne l'a pas encouragé à communiquer cette information à son employeur à la limite. Mais probablement, je pense que ça a été couvert par le secret médical.
Plusieurs compagnies aériennes vont instaurer la présence permanente de deux personnes dans les cockpits, mesure qui était déjà obligatoire aux États-Unis, mais pas en Europe. Va-t-on donc vers un changement des règles de sécurité dans les cockpits ?
Probablement, ça va changer. Il y a certaines compagnies en Europe, comme EasyJet, par exemple, qui ont annoncé qu'elles vont introduire cela avec effet immédiat. Il y a certaines compagnies comme Ryanair qui ont déclaré qu'elles le faisaient. Maintenant, soyons honnêtes, c'est pas une hôtesse de l'air qui est debout derrière une porte qui va empêcher un pilote ou un commandant de bord d'écraser l'avion s'il voulait le faire exprès.
Évidemment, l'enquête est toujours en cours. Peut-on dire que c'est pas seulement le terrorisme qui force les compagnies aériennes à renforcer leurs mesures de sécurité ?
Non, il n'y a pas que le terrorisme, malheureusement, mais les maladies psychiatriques ne sont pas toujours évidentes à déceler. Et justement, ce pilote de Germanwings, de témoignage de tout ce qu'il connaissait, avait l'air d'un type sympa, bien ajusté, bien équilibré dans sa vie. Donc, très difficile de détecter ce genre de comportement, malheureusement.
Amine Messifi, expert en sûreté aérienne, est en ligne de Londres.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Island Music, de la bonne musique des îles. Zouk, soca, merengue, reggaeton, reggae. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire, la liberté d'expression. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. Encore une fois, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité. Morgan.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir repris ce vendredi Gwoza dans le nord-est du pays. Souvenez-vous, c'est dans cette ville que le groupe islamiste Boko Haram avait proclamé l'instauration de son califat l'année dernière.
Et concernant toujours le Nigeria, le président tchadien se plaint du peu de coopération d'Abuja face aux djihadistes. Il l'a dit dans une interview à l'hebdomadaire Le Point.
Sachez aussi qu'au Niger, une bombe tirée du Nigeria est tombée hier matin dans ce pays, à environ 20 km du sud-est de Diffa. D'après notre envoyé spécial Idriss Fall, l'explosion s'est produite au cours d'une distribution de nourriture par Care International. Une femme a été tuée.
En République centrafricaine, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés condamne fermement l'enlèvement de réfugiés congolais par les rebelles de la LRA.
À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagno, présentation Morgane Guiriec et Idrissa Seydoudia.
Et comme ils disent ici, ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.